France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Au menu ce soir, la découverte des ossements du corps du petit Émile disparu à l'âge de 2 ans et demi l'été dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Nous nous poserons notamment la question de l'attrait du public pour les énigmes criminelles. Autre sujet, l'allongement du délai de carence à l'étude pour les salariés du privé. Nouvelle piste d'économie envisagée par le gouvernement. Le week-end de Pâques, il y a bien sûr la santé du pape qui questionne, mais il y a aussi le chocolat et son empreinte écologique et sociale. Pour débattre, échanger, analyser, ils sont quatre ce soir dans le studio de France Info. Marie Bouetton, bonsoir.
Bonsoir.
Un grand reporter au journal La Croix. Raphaël Kahn est également avec nous. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Victor.
Journaliste à France 24, présentateur de l'émission Le Monde dans tous ses états. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie.
Bonsoir Victor.
Fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Et Rachel Gara-Valcarcel. Bonsoir Rachel. Du journal 20 minutes, journaliste politique. C'est parti pour une heure de débat. L'information est donc tombée à la mi-journée. Des ossements du corps du petit Émile ont été retrouvés près du hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est là que l'enfant de 2 ans et demi avait disparu le 8 juillet dernier, le 8 juillet 2023. Il y a donc près de 9 mois, il y a 3 jours, une mise en situation avec tous les témoins potentiels présents ce jour-là a eu lieu. Une reconstitution du moment où l'enfant avait été vu pour la dernière fois. Mais hier, c'est une promeneuse qui a découvert par hasard ces ossements. Mathilde Vinceneux, vous êtes sur place pour France Info. Le hameau est toujours ce soir complètement bouclé.
Oui, et toute la journée, hein, les gendarmes ont bloqué la route qui permet d'accéder aux quelques maisons du hameau du Haut-Vernay à 1200 mètres d'altitude. La même où a disparu le petit garçon, vous le disiez, l'été dernier, alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents. Les gendarmes empêchent aussi d'accéder aux sentiers forestiers aux alentours qui mènent à la zone où ont été retrouvés les ossements du petit garçon hier. Une découverte par une promeneuse à moins de 2 km à vol d'oiseau du hameau. Des ossements incomplets, un crâne selon une source proche du dossier. Les analyses minutieuses de ces os par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie permettront peut-être de déterminer les causes de la mort du petit Émile.
Et cette découverte qui confirme donc la mort d'Émile est forcément, Mathilde, un choc pour tous les habitants du village.
Oui, si beaucoup de maisons ont les volets fermés ici, les rares habitants que l'on peut croiser disent leur émotion et pensent à la famille du petit Émile, à ses parents qui parlent ce soir dans un communiqué transmis par leur avocat d'une nouvelle redoutée et déchirante. Pour le village, c'est aussi une première réponse comme une forme de soulagement après 9 mois d'une enquête qui n'avait rien donné, explique Annabelle, une habitante du Vernet.
On est complètement abasourdi, quoi. Notre grosse peur en tant que parents, c'était qu'il soit séquestré quelque part et qu'il manque de quelque chose, qu'il soit en souffrance, quoi. Donc effectivement, on est soulagé, mais extrêmement, extrêmement triste, quoi. On attend la vérité. Plus que la vérité, la vérité, la vérité. On espère qu'elle va éclater en même temps, quoi.
Il y a encore beaucoup de questions. Hein, pourquoi cette découverte aujourd'hui, quelques jours à peine après une mise en situation, une sorte de reconstitution qui n'avait rien donné? Pourquoi aussi dans ce lieu, non loin du hameau, dans un périmètre qui avait pourtant été largement fouillé avec des chiens, des drones, des hélicoptères? Alors l'endroit où les ossements ont été retrouvés, est-il celui où le petit Émile est mort, ou alors son corps a-t-il été déplacé jusque-là? Toutes les hypothèses sont encore sur la table. Le maire a pris un arrêté pour interdire le hameau aux curieux pour toute la semaine, alors que les fouilles vont se poursuivre dans des conditions difficiles pour les gendarmes. Il pleut beaucoup ici, il y a de la boue et la zone est très escarpée.
Mathilde Vinceneux, envoyée spéciale pour France Info, un choc pour les habitants. Et le maire dont vous parliez, le maire du Vernet, François Balic, qui s'est exprimé tout à l'heure.
Je suis vraiment très 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 triste. Je pense à Émile. J'avais l'espoir qu'on retrouve Émile vivant. Bien sûr que cet espoir. Et je vous dis, toute ma pensée va à Émile, à ses parents. Voilà, c'est ça. Et puis pour le reste, comme depuis le début, je vous l'ai dit, je fais entièrement confiance à la justice, à la gendarmerie. On prouvera la vérité. On la doit à Émile, donc à la mémoire d'Émile, on la doit aux parents. Et on la doit également aux habitants du Vernet, parce qu'on est secoué depuis quand même 8 mois.
L'émotion du maire du Vernet en ligne avec nous à présent, Jacques-Charles Fonbonne, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien commandant du Centre National de Formation à la police judiciaire de la gendarmerie. Il y a bien sûr ces ossements découverts par hasard, mais ce soir les circonstances de la mort d'Émile restent toujours inexpliquées.
Ah oui, forcément. La seule chose qui pourrait faire basculer l'enquête vers une hypothèse criminelle serait dans le cas où l'on trouverait sur les ossements des traces de coups, par exemple une lame qui aurait percuté un os, soit des fractures qui seraient significatives d'un objet contondant. Sinon, l'enquête ne va pas forcément prendre une direction univoque. En revanche, ce que l'on peut dire à ce stade des investigations, c'est que forcément les jours, les semaines qui viennent vont se centrer autour d'examens de police technique et scientifique, c'est-à-dire autour de l'examen des ossements, pour essayer de déterminer donc justement cette hypothèse criminelle, accidentelle. Je pense que la question majeure qui se pose, qui étonne tout le monde, c'est de savoir comment on aurait pu passer à côté de ces ossements, à côté de ce corps, avec toutes les opérations de ratissage et surtout de présence d'équipes cynophiles, de drones, de recherche d'émanations de gaz carbonique qui ont été faites pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines.
C'est pour cette raison, d'ailleurs, Jacques-Charles Fonbonne, que vous, parmi les pistes privilégiées, les pistes envisagées, vous privilégiez justement celle d'un déplacement du corps ou des ossements?
Alors, il est évidemment difficile de privilégier une piste particulière, surtout en n'étant pas dans l'enquête. Mais effectivement, si l'on considère comme hypothèse de départ que l'on n'a pas pu passer à côté de ce corps sans le trouver, ensuite, en sous-hypothèse, effectivement, où quelqu'un est venu le placer à l'endroit où on l'a découvert après ces investigations, en se disant finalement, on a tellement cherché à cet endroit qu'on n'y retournera jamais. Ou alors le crâne, parce que je crois que c'est un crâne qu'on a retrouvé, a pu rouler à cause des intempéries, parce que des animaux prédateurs l'ont déplacé, hein, ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire la possibilité d'une dispersion des eaux, mais on n'est forcément pas sur de très grandes distances, ce qui veut dire que si l'on est passé dans ce coin-là, on aurait pu quand même trouver ces indices.
C'est
Maintenant.
impossible d'être passé à côté lors des premières recherches.
Or, rien n'est jamais impossible dans ce domaine. Moi, j'ai vu des enquêtes où on était passé 3 ou 4 fois au même endroit et où on a fini tout à fait par hasard, des chasseurs, par retrouver des corps qui avaient disparu. Tout est possible, mais là, les moyens qui ont été mis en œuvre, et notamment les équipes cynophiles avec des Saint-Hubert qui sont des chiens extrêmement performants, militent plutôt pour l'hypothèse où on aurait dû trouver s'il avait été là à ce moment-là.
Jacques-Charles Fonbonne, de quelle façon l'enquête va se poursuivre selon vous? C'est en quelque sorte une nouvelle enquête qui débute?
Non, pas vraiment. C'est une enquête où on va serrer un tout petit peu les hypothèses, en ce sens que l'on est maintenant certain que l'enfant n'a pas été enlevé par quelqu'un qui serait passé par hasard et qui l'aurait emmené très loin. Ça, je pense que ça va permettre aux gendarmes de restreindre leur périmètre d'investigation, ce qui est toujours intéressant parce que ça permet de mettre davantage d'enquêteurs sur les hypothèses qui paraissent les plus plausibles. Mais malheureusement, ça va pas plus loin. Si les témoins qui ont vu partir l'enfant en sortie de village l'ont vu à un endroit qui correspond à la direction qu'il l'aurait prise logiquement avec l'endroit où on a retrouvé le corps, ça va finalement être le seul élément, on va dire, très légèrement matériel dont ils pourront disposer, mais ils n'auront rien avant qu'éventuellement le crâne ait livré des traces de coups, des traces d'armes blanches, des traces d'objets contondants qui, là, pourraient militer en faveur d'une hypothèse criminelle. Mais c'est tout ce qui peut y avoir dans les médias.
Voilà l'enquête qui se poursuit. Donc merci infiniment à Jacques-Charles Fonbonne de nous avoir accordé ces quelques minutes ce soir sur France Info, ancien commandant du Centre national de formation à la police judiciaire de la gendarmerie. 20h12, le Fil Info avec Thomas Giraudeau.
Le pic de la crue est attendu ce soir dans une partie de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Les deux départements restent en vigilance maximale rouge jusqu'à demain. Par endroit, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en quelques heures et il va de nouveau pleuvoir cette nuit. 200 personnes ont déjà été évacuées, dont les résidents d'un EHPAD. Dans un communiqué transmis par leur avocat, les parents d'Émile remercient ceux qui les ont aidés, soutenus, ainsi que les enquêteurs des ossements. Ceux du petit garçon de 2 ans et demi ont été retrouvés près du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes-de-Haute-Provence, là où Émile a disparu l'été. dernier. À Gaza, un hôpital vient d'être touché par une frappe israélienne. 4 personnes ont été tuées, 17 blessées, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Les appels au cessez-le-feu se multiplient, mais les positions d'Israël et du Hamas sont trop éloignées pour faire avancer les négociations, selon le mouvement islamiste palestinien. Et puis, c'est une victoire inoubliable, la joie de Mathieu Van Der Poel, le champion du monde de cyclisme, a remporté le Tour des Flandres aujourd'hui. Victoire en solitaire après avoir accéléré et creusé l'écart dans une des pires difficultés de la journée. L'italienne Elisa Longo-Borghini remporte la course féminine.
France Info.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Et on continue donc à parler de l'une des informations principales de ce dimanche, ces ossements du corps du petit Émile retrouvés près du hameau du Haut-Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. C'est à la fois une étape déterminante dans l'enquête, Marie Boueton, la fin des recherches du corps, la fin de l'espoir aussi pour la famille, mais l'enquête qui se poursuit maintenant, on l'a entendu.
Oui, en effet, il faut prendre toute la mesure du drame pour ce petit garçon, évidemment, pour sa famille. Après, on n'est pas face à un fait de société, on est face à un fait divers. Et autant il y a des faits qui nous interpellent, je pense à la mortalité routière qui est devenue un fait de société, aux féminicides qui très légitimement sont devenus un fait de société. Là, le risque de ce fait divers qui est dramatique, et toutes les victimes méritent d'être pleurées, à commencer par ce petit garçon, le problème de ces faits divers qui sont extrêmement singuliers, c'est qu'ils risquent de faire diversion. Vous parliez tout à l'heure de la dette. Bon, il y a des sujets de société sur lesquels il faut absolument qu'on puisse débattre démocratiquement et qui vont mobiliser nos droits de citoyens, hein, nos droits démocratiques de citoyens. Là, on est face à des faits de société qui, à mon sens, trop souvent aimantent nos esprits, nous fascinent. Peut-être parce que on peut facilement avoir un avis à peu de frais. C'est très narcissisant d'avoir un avis sur un fait divers. Vous pouvez dire, moi je pense que Dupont de Ligonnès est mort et moi je vous dis, moi je pense qu'il est bien. On n'a rien dit. Les enquêteurs sont les premiers à buter là-dessus, mais on va se narcissiser mutuellement en disant, ouais, moi je pense que bon. Je pense qu'on a une fait diversion de l'actualité qui, à mon sens, est préjudiciable au vrai débat de société.
Raphaël Kahn, est-ce que vous êtes d'accord avec
non,
ça?
Non, je crois au contraire que ça nous rapproche de notre part d'humanité. On ne peut pas tout sociologiser ou voir sous l'angle de la sociologie et tenter de tirer des conclusions générales de tout événement. Je crois qu'il y a aussi des événements dans la vie qui, tout simplement, nous ramènent à notre condition humaine, en l'occurrence là, la condition de parent, à laquelle, je crois, on peut tous s'identifier, quand bien même, d'ailleurs, on n'a pas d'enfant. Je crois que c'est propre, tout simplement, à la condition humaine que de considérer qu'un enfant de 2 ans et demi qui meurt dans des circonstances non élucidées, ça reste malgré tout un drame.
J'ai pas dit l'inverse.
Non, hein. Bien sûr.
J'ai commencé en disant que toute victime méritait nos larmes.
Oui, mais notre attention aussi, parce que je crois que vous balayez un peu, pardonnez-moi rapidement, le fait que, comme il ne s'agit pas d'un événement explicable à l'échelle sociologique, c'est-à-dire duquel on puisse tirer des conclusions générales pour l'ensemble de la population française, il ne faudrait pas y accorder un minimum d'attention. Moi, je crois au contraire qu'il est important, effectivement, de s'interroger sur à la fois ce qui fait qu'un enfant puisse échapper à la vigilance des adultes pour se retrouver dans un hameau de montagne à plus d'un kilomètre et qu'on retrouve aujourd'hui des ossements. Et je crois qu'il est nécessaire et utile que des moyens soient déployés. Et sans l'attention du public, malheureusement, les moyens ne seraient peut-être pas au rendez-vous. On parlait d'une centaine de policiers ou gendarmes.
Ce que vous disiez, Marie Boueton, c'est finalement, ça plaît à nos émotions, tout ça, simplement. Enfin, c'est peut-être
je
ça
pense,
que vous voulez
dire. Je pense, en effet, et que pendant ce temps-là, c'est quand même un temps de cerveau disponible qui, pour le coup, dessert d'autres sujets de société. J'ai très longtemps été rubricaire judiciaire au quotidien La Croix pendant 10 ans. Les homicides ne cessent de diminuer. De 1993 à 2022, ils ont été divisés par 2. On n'est absolument pas sensibilisé à ça parce qu'on nous rabâche quotidiennement les faits divers qui se passent dans ce pays, qui existent bien sûr, et encore une fois, je pense qu'il faut prêter une véritable attention aux victimes. Je pense simplement que là, on donne une tonalité très particulière qui ensuite est exploitée politiquement à ces faits divers. Et ça ne veut absolument pas dire, je ne l'ai jamais dit, qu'il ne fallait pas mobiliser 100 policiers pour retrouver ce petit garçon.
Oui, mais les aurait-on mobilisés sans le projecteur des médias?
Si c'est pas le cas, c'est dommage.
Oui, j'ai un avis un peu différent. Je pense que, alors oui, moi je suis assez d'accord. Il y a pas d'échelle de faits divers qui soit plus valable que d'autres pour des raisons sociologiques ou quoi. Mais c'est surtout, il y a une espèce d'emballement sur les faits divers, il me semble, ces derniers temps, parce que c'est vrai que ça marche. Ça fait écho dans la société. On suit une énigme comme on suivrait dans un thriller ou dans un livre. Donc ça plaît. On a un côté malsain, hein, les hommes et les femmes. Donc il y a cette attirance. Et c'est vrai que les chaînes d'infos tirent sur ce fil et l'exploitent à outrance, il me semble. Et moi, j'entendais cette maman qui dit, c'est terrible quand même ce qu'elle dit. Elle dit, je suis soulagée parce que mon petit enfant est mort, parce que je pensais qu'il était dans des conditions terribles. Et il y a eu des communiqués.
C'est l'habitante qui disait ça.
C'est l'habitante. Mais il y a eu aussi des communiqués pour dire aux journalistes, attention, voilà, éloignez-vous. Enfin, je pense qu'il y a le respect, quoi. Moi, c'est au-delà de la dette ou de choses dont on ne parlerait pas à cause de ce fait divers. C'est le respect pour la famille. Et j'ai l'impression que parfois, oui, ça peut servir de passer à la télé parce que on va plus loin dans des recherches, mais il me semble qu'on va un peu à l'excès parfois à tirer ce fil parce que ça marche et qu'on a ce côté voyeuriste, malsain, de toujours avoir cette énigme un peu comme un feuilleton. Donc c'est plus pour le respect, bien sûr en parler, mais peut-être après faire attention parce que c'est des humains, c'est des gens qui ont des sentiments, des émotions et c'est difficile dans ce
votre cas. Avis, Rachel Garaval-Cassel?
Oui, ben je suis plutôt sur la ligne le fait divers fait diversion pour reprendre la formule. Après, les faits divers, ça marche depuis très très longtemps parce qu'effectivement, bah ça fait appel. Vous avez raison à notre humanité. Je pense que c'est très facile de s'identifier à des parents qui voient leur enfant disparaître. Il y a des vagues qui sont très anciennes. Pour voir des choses plus récentes, je pense à la campagne présidentielle de 2002, qui est un modèle du genre. Et puis après, ben, une fois le résultat passé, on a donné beaucoup moins d'importance aux faits divers. On s'est dit, tiens, peut-être qu'on en a fait trop fait. Puis en fait, ça vient par vague, en fait.
Mais on voit quand même que ces énigmes criminelles, elles restent, voilà, très attrayantes pour le grand public.
Bien sûr,
l'affaire Grégory relancée récemment, l'affaire Dupont de Ligonnès, n'en parlons pas.
On voit bien le nombre d'émissions sur les faits divers qui existent. Après, le problème, c'est qu'effectivement, parfois, ça va très loin. L'affaire Grégory, c'est évidemment l'acmé de ce genre de choses. Mais dans cette affaire-là, il y avait aussi un petit peu de tourisme macabre aussi sur le sujet. Et d'ailleurs, bah, on l'a entendu, le maire a encore interdit l'accès du hameau pour la semaine.
Vous voulez rejeter un mot, Raphaël Kahn?
Non, moi aussi, mon sentiment, c'est que face à une actualité parfois trop distante, justement, des citoyens, bah, il est peut-être important aussi de se remettre à hauteur d'homme, et pas seulement pour raconter l'histoire du dernier cordonnier du village, ou Inès Rey contre Natacha Saint-Pierre, mais revenir vraiment à ce qui constitue des drames humains. C'est pas du tout du même niveau, je pense.
Ça vous fait sourire, Rachel?
Non.
Parce que vous avez raison avec Danse avec les stars qui vous a surpris, visiblement.
Non, mais je veux dire, c'est pas comme s'il y avait on parle beaucoup de la qualité de notre débat public. Regardez à quoi ressemblait la presse sur les faits divers dans les années 70, à une époque où les personnes risquaient encore la peine de mort. Enfin, c'est autre chose, hein.
Effectivement, l'enquête qui se poursuit donc après la découverte de ces ossements du corps du petit Émile. On marque une nouvelle pause dans ces informés, 20h et 20 minutes, le fil info, c'est avec Thomas Giraudeau.
C'est dans un secteur boisé escarpé près du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence que des ossements du petit Émile ont été retrouvés par une randonneuse. Le garçon de 2 ans et demi disparu depuis le mois de juillet. La zone avait déjà été fouillée par les gendarmes qui lancent de nouvelles recherches autour du lieu de la découverte à la recherche d'indices sur les circonstances de la mort de l'enfant. Les enquêtes sur les menaces visant les établissements scolaires avancent après le placement en détention provisoire d'un jeune de 17 ans près de Paris. Deux lycéens de Bordeaux et Mont-de-Marsan vont comparaître en justice. Ils sont suspectés d'avoir lancé des fausses alertes à la bombe au sein de leurs établissements. En Turquie, les premières tendances sorties des urnes ne sont pas favorables au président Recep Tayyip Erdogan. Espérait remporter les mairies d'Istanbul et d'Ankara, les deux villes les plus peuplées du pays. Mais l'opposition sort pour l'instant gagnante des élections municipales. Et puis Nantes, c'est une terre de volée. Les deux équipes, féminines et masculines, ont remporté ce week-end la Coupe de France. Les Nantaises ont battu Mulhouse 3-7-0. Les hommes l'ont emporté face à Montpellier sur le même score cet après-midi.
France Info. 20h-21h, les informés, Victor Matet.
Notre deuxième sujet ce soir dans les informés concerne le délai de carence pour les arrêts de travail que le gouvernement envisage de rallonger de 3 à 5 ou 8 jours pour les salariés du privé. Information de la Tribune dimanche confirmée par France Info. Alors est-ce une bonne idée? Absolument pas, répond c'était ce matin sur France Info Clément Beaune, l'ancien ministre et actuel député de la majorité.
Le jour de carence, c'est un paramètre qui a souvent été allongé ou réduit. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas aujourd'hui revenir. Il faut évidemment, quand on fait des économies sur les dépenses publiques, se poser des questions sur les dépenses de l'État, mais aussi sur les dépenses sociales. Hein, c'est ça l'état d'esprit. Donc, on ne va pas égrener chaque jour le concours Lépine des mesures d'économie. Quand je disais on va construire un budget, on va regarder la fiscalité, on va regarder les économies. Il ne faut pas que chaque jour, on ait un débat vrai ou pas vrai sur une allocation X, une prestation Y. Et si vous me posez très directement la question, moi je pense que le jour de carence, c'est important de le garder tel qu'il est.
Voilà les formules de Clément Beaune dans cette interview ce matin sur France Info. Tiens Rachel, comment est-ce que vous interprétez les propos de Clément Beaune?
Le gouvernement a lancé un ballon d'essai et que chacun se positionne là-dessus, notamment dans la majorité qui sont évidemment les premiers concernés. Et Clément Beaune, qui semble représenter une forme d'aile gauche dans la majorité, dit halte là. Après, ça montre aussi que le gouvernement cherche à tout prix, si je puis dire, des mesures d'économie potentielles. Mais là, sur le délai de carence, ça a quand même tout du coup de rabot. Alors qu'on dit précisément, faut pas aller sur le coup de rabot, faut des grosses réformes structurelles pour des économies dans la durée. Bah, en fait, le gouvernement, il cherche aussi une poire pour la soif très très vite là.
Et ce seraient les entreprises qui seraient mises à contribution d'après les premiers éléments qui sortent, contribution financièrement et pas les salariés. C'est le risque aussi, Marie Boueton, de se mettre les patrons à dos notamment.
Ce qui fait débat, hein, parce qu'elles font d'ores et déjà savoir qu'elles ne veulent pas assumer cette charge. En effet, aujourd'hui, on reçoit une indemnité journalière de la part de la collectivité à partir du quatrième jour. C'est vrai que les trois premiers jours, a priori, ce sont en général les salariés du privé ne le voient pas parce que ce sont les entreprises en fait qui versent aux salariés. Là, elles n'entendent absolument pas elles-mêmes être chargées en fait de payer les salariés pour 6, 7, 8 jours. Donc il va y avoir aussi ce débat-là, en plus de celui sur la fiscalité et les autres moyens éventuels pour trouver ces fameux 10 milliards. Mais en effet, c'est un petit coup de rabot, c'est 1 milliard par an au mieux, si on part sur 8 jours, enfin l'allongement du délai sur 8 jours.
Alors qu'on rappelle que le gouvernement veut faire 30 milliards d'économies d'ici fin de 2025. Il y a quelques jours, c'est Sacha Houlier, autre député de la majorité, qui estimait que réduire la durée d'indemnisation des chômeurs n'était pas la bonne voie. L'aile gauche de la Macronie essaye contre-attaquer les différents coups de barre à droite.
Émilie Zapatier. En tout cas, on voit qu'il y a du désordre parce qu'il y a aussi Yael Braun-Pivet côté super profit qui veut essayer de taxer quelque chose qu'on a déjà vu du côté du Modem et qui est surtout pas accepté par le gouvernement. Il y a beaucoup de désordre et c'est vrai que ces Mozart de la finance, on se demande où ils sont à l'heure actuelle parce que là, ça donne un peu l'impression de, oulala, tout d'un coup une excitation terrible pour trouver parce que la dette, c'est terrible quand même ce qui leur est tombé sur le dos. Qui est tombé, on a l'impression que c'est une découverte comme ça, alors qu'il s'était basé sur des éléments de croissance qui étaient biaisés.
C'est pas une énorme surprise.
Non, c'est pas une énorme surprise, mais on a l'impression qu'il joue la surprise, et puis tout d'un coup, oulala, il faut trouver... Moi, je trouve que c'est assez... ça fait débutant. Je suis désolée, mais ça fait un peu amateur. On a quand même un gouvernement qui est là, enfin, en tout cas, un président qui est là depuis 7 ans, un ministre de l'économie à peu près pareil, qui écrit en plus à côté des livres pour donner des leçons sur la façon de gérer la France. Moi, je comprends pas très bien, c'est pas très rassurant, en fait, sur ça. Et encore une fois, ça retombe sur, en effet, des petites économies de bout de chandelle, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait libérer. Il y a peut-être des choix à faire en termes de dépenses. Mais voilà, on s'en tient à des petits coups de rabot comme ça. Franchement, moi, je trouve ça très amateur. C'est pas très sécurisant. Et au niveau de la majorité, oui, ça fait désordre, puisque cette aile gauche, alors bon, elle va crier un peu, mais on sait qu'elle, en général, elle rentre vite dans les rangs. Mais on voit bien que les avis sont pas du tout unanimes.
Est-ce que vous feriez ce même procès en amateurisme au gouvernement?
Il y a un problème de fond et puis il y a un problème de méthode qui malheureusement aggrave le fond. C'est-à-dire que depuis un mois, on a effectivement Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Thomas Cazenave, chacun évade de sa proposition, de sa formule choc en matière de traitement de choc justement de l'économie et on assiste à une surenchère en fait d'austérité. Le problème, c'est que le déficit et la dette sont dépendants de la croissance. C'est-à-dire que si l'économie est en panne, d'abord, il n'y a pas de rentrée fiscale, ce qui effectivement va diminuer les recettes, mais dans le même temps, il y a également davantage de prestations à distribuer. Donc ça va augmenter les dépenses. Et rapporter en plus à un PIB qui stagne, voire se contracte. Donc vous avez effectivement une augmentation en pourcentage des déficits et de la dette publique. Or si vous envoyez des signaux anxiogènes, comme c'est le cas en ce moment depuis 3 semaines, le risque c'est tout simplement que les gens arrêtent de consommer, les entreprises d'investir. Et là vous allez avoir en fait une aggravation des maux que vous prétendez précisément résoudre. Et puis il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'on a 110% de dette rapportée au PIB. Sauf que cette dette, il y a 25% qui est détenue aujourd'hui par la Banque de France, parce que c'est de la dette Covid monétisée. Donc vous avez effectivement 25% la Banque de France, 27% les résidents, et puis le reste, 48%, ce sont des non-résidents. Alors on peut trouver que malgré tout, c'est grave. Il y a effectivement des pays qui sont beaucoup plus endettés que nous rapportés au PIB. Le Japon, c'est 250%, mais c'est 90% détenu par la réserve du Japon. Et donc on n'entend pas de cri d'orfraie. Donc il faut aussi relativiser la réalité des mots. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. On n'a pas été capable de présenter un budget.
Mais c'est le gouvernement lui-même qui
qui tire la sonnette d'alarme.
Depuis 50 ans, on n'a pas présenté un budget à l'équilibre. Donc, d'une certaine manière, oui, le gouvernement aujourd'hui, il hérite d'un fardeau qui a été traîné de gouvernement en gouvernement. Je ne suis pas sûr que ce soit en disant aujourd'hui aux seniors de plus de 55 ans, en les culpabilisant et en leur disant, en fait, il va vous falloir revenir sur le marché du travail avec un SMIC senior tel que c'est décrit, parce que 80% d'activité pour 90% de salaire, que vous allez effectivement résorber comme ça la question du travail et surtout revenir à 5% de chômage.
Et on va poursuivre la discussion dans la seconde partie. Des informés, ce sera après la météo et l'info. Les informés reviennent dans un instant.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Les informés sont bien de retour avec Marie Boueton, grand reporter à La Croix, Raphaël Kahn de France 24, présentateur de l'émission Le Monde dans tous ses états, Rachel Gara, Valcarcel, journaliste politique à 20 minutes, et Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Nous parlions dans la première partie des informés de ces économies que le gouvernement cherche à réaliser avec différentes mesures. On rappelle ce chiffre, 30 milliards d'euros d'économies à réaliser d'ici fin 2025. 10 milliards pour cette année, 20 milliards l'année prochaine. Vous me corrigez, Rachel, si je me trompe, mais c'est bien cela. La difficulté, je vais rester avec vous, Rachel, c'est justement qu'on est dans une année d'élection. Il y a les européennes, il y aura la présidentielle qui arrivera un peu plus tard, mais toutes ces mesures, elles sont, on va dire, forcément impopulaires.
Oui, bon, je pense que les élections européennes, après tout, le budget, ce sera après les élections européennes. Si défaite il y a, de toute façon, elle sera consommée, entre guillemets, pour la majorité. Non, faire des économies, c'est difficile, de toute façon. Parce que, prenons l'exemple là du jour de carence. En fait, c'est des vraies fausses économies, car effectivement, là, tout de suite, vous pouvez potentiellement avoir le milliard dont vous parliez. Mais en fait, c'est raisonné dans la logique que, en fait, la sécurité sociale, au fond, c'est un cadeau qu'on nous fait. Mais en fait, non, c'est une politique de santé publique. Si vous savez que vous allez avoir 2, 3, 4, 5 jours de carence qui ne seront pas compensés par votre employeur, effectivement, vous allez peut-être avoir moins tendance à prendre votre arrêt maladie. Mais ça veut peut-être dire que vous allez partager votre maladie avec vos collègues ou que vous allez être moins productif au travail et donc que ça fait plus de médicaments à rembourser pour plus de monde. Donc en fait, toutes ces politiques sociales, elles ne sont pas là pour rien. Alors on peut faire des choix de société, des choix politiques en disant ben voilà, effectivement, on décide, mais comment dire ? Ça, c'est pas vrai que ça sera sans conséquence. Et là, c'est sur un fait, mais c'est le cas sur des tas d'autres politiques. Je crois que c'est Jacques Chirac qui disait derrière chaque niche fiscale, il y a un chien. C'est pour ça que c'est si difficile de s'y attaquer. Mais en fait, derrière chaque politique sociale, il y a quand même des effets concrets pour les concitoyens et concitoyennes. C'est pas rien.
Émilie Zapalski.
Oui, je pense qu'au-delà de ça, il y a un problème pour le gouvernement, c'est de sortir finalement de ce quoi qu'il en coûte. En fait, on a été habitué avec les différentes crises qu'on a traversées, crise Covid évidemment, mais après l'Ukraine, et finalement on y est toujours dans ce quoi qu'il en coûte. On s'est habitué un peu à cette perfusion que nous donnait l'État sur, dès qu'il y a un souci, le gouvernement répond avec quelques millions. On l'a vu encore récemment avec la crise agricole. C'est un peu un réflexe qu'a eu le gouvernement, qui est assez habituel, mais là qui a été encore plus grossi depuis la crise Covid. Probablement on est aussi fautif parce qu'on attend maintenant de l'État qu'à chaque fois il donne de l'argent, il donne une réponse financière à une crise, mais c'est le gouvernement aussi. D'ailleurs, Bruno Le Maire a annoncé je ne sais pas combien de fois la fin du quoi qu'il en coûte, et finalement, on y est toujours. Et ça, ils n'arrivent plus à le gérer, parce que ça veut dire, encore une fois, vérifier si c'est le jour de carence qui vaut le coup de raboter, ou est-ce que on fait un vrai travail dans les dépenses de l'État pour savoir.
Est-ce que le problème, c'est qu'on ne passe pas d'un extrême à l'autre, du quoi qu'il en coûte à rien ne doit
tout
coûter
d'un coup, voilà, on sait que la dette, ça s'agit de tous les côtés, hein, parce que moi j'ai entendu Marine Le Pen en parler avec quasiment les mêmes mots que Pierre Moscovici de la Cour des comptes. Donc il y a quelque part, c'est un sujet. Le gouvernement sait que ça monte. On est en période électorale aussi, donc il veut s'y atteler. Et en effet, c'est l'extrême inverse, mais on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Et si demain, il y a une autre crise ou il y a une autre profession qui vient réclamer, eh bien, je suis persuadée que le gouvernement s'inclinera et distribuera encore. Il y a une espèce de... On n'arrive pas à se dépêtrer, enfin, le gouvernement n'arrive pas à se dépêtrer de ce quoi qu'il en coûte, qui était probablement salvateur au moment de la crise Covid, mais qui a été un petit peu très très large et sans fin.
Il est coincé, Marie Boueton, en quelque sorte, le gouvernement dans
ce dossier. En tout cas, je trouve que c'est une séquence qui montre les divisions de la majorité par rapport à la fiscalité. C'est un tabou absolu pour Emmanuel Macron d'augmenter les impôts. Et on voit Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. On voit Jean-Paul Mattei, qui dirige les élus Modem à l'Assemblée. On voit Jean Pisani-Ferry, qui a été conseiller d'Emmanuel Macron dans son premier quinquennat sur les finances, qui lève ce tabou. et qui disent qu'il faut augmenter, alors pas pour la population générale, pour les super dividendes, les super profits et les très très riches. Il faut oser questionner ça. Alors en effet, le gouvernement répond que nous avons le 42% de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le plus haut taux d'Europe. Mais dans le même temps, on a les 43 milliardaires français qui ont vu augmenter leur fortune de 230 milliards en 3 ans. Là, on n'est pas sur du rabot. Là, on est sur des sommes qui sont vraiment colossales. Et là, on voit bien que la majorité est divisée sur cette question.
Un dernier mot sur le sujet, Raphaël Kahn.
J'écoute effectivement et je suis d'accord, mais je crois que la grosse difficulté, c'est que certes, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, mais les super riches, ils font déjà de l'optimisation fiscale. Et en réalité, aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé le moyen de récupérer cet argent. On a tenté effectivement de taxer les GAFA, par exemple, ou les GAFAM ici en Europe. On voit la difficulté, l'usine à gaz qu'il faut monter, effectivement, pour aller taxer les patrimoines français. Alors peut-être trouvera-t-on un jour le moyen, comme les États-Unis, d'aller traquer les citoyens, alors citoyens américains partout dans le monde et de la même manière les citoyens français, pour qu'ils soient redevables de l'impôt ici en France, quand bien même ils ne seraient pas résidents en France. Mais c'est une véritable difficulté. En attendant, eh bien, on en est à ces mesures qui reviennent peut-être effectivement à culpabiliser, alors retirer un jour, enfin, ou ajouter un jour de carence. C'est effectivement laisser entendre qu'il y aurait d'une certaine manière fraudeurs. Or, c'est une assurance, l'assurance maladie, tout comme l'assurance chômage. On cotise pour ça, on y a droit, il faut peut-être davantage de contrôle. Mais davantage de contrôle, ça veut dire davantage de fonctionnaires et ça veut dire davantage de coûts aussi, donc c'est un cercle vicieux.
Mais pour les énergéticiens, on a quand même trouvé des solutions au niveau européen, donc moi je pense qu'en effet c'est très compliqué, mais quand on veut, je pense qu'on y arrive. Et c'est simplement un tabou, il me semble, au sein du gouvernement et particulièrement d'Emmanuel Macron, d'aller toucher cette population. Je crois qu'il y a une espèce de postulat de départ, on ne touchera pas à ça.
Voilà l'objectif d'économie du gouvernement dont on aura forcément l'occasion de reparler dans les informés. Il est 20h40, le Fil Info, l'essentiel avec vous Thomas Giraudeau.
La vigilance reste maximale rouge jusqu'à demain en Indre-et-Loire et dans la Vienne. La rivière du même nom devrait atteindre son pic dans la nuit dans la ville de Chinon, selon Vigicru. Plus de 200 personnes ont été évacuées de chez elles dans les deux départements. Au moins une personne a été tuée dans la région de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, après de nouvelles frappes russes visant ces derniers jours des infrastructures électriques. Plusieurs régions ont dû couper le courant pour limiter la consommation. La France va livrer à l'Ukraine des centaines de blindés déjà utilisés, mais encore fonctionnels. L'espace Schengen s'élargit depuis ce matin. Il compte deux nouveaux pays, la Roumanie et la Bulgarie. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir un passeport pour voyager à Bucarest ou à Sofia. Les contrôles sont en revanche maintenus aux frontières terrestres, ce qui suscite la colère des chauffeurs routiers. Et puis dans moins de 5 minutes, coup d'envoi du classique au MPSG au Vélodrome. Kylian Mbappé est titulaire avec le brassard de capitaine. Brest a repris la deuxième place du classement de Ligue 1 en battant Lorient cet après-midi.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
En ce dimanche de Pâques, la santé du pape François continue d'interroger, même si sa présence hier soir et ce matin au Vatican, ce matin pour sa prière à la ville et au monde, a en grande partie rassuré les fidèles.
J'appelle une nouvelle fois à ce que l'accès des aides humanitaires à Gaza soit garanti. En exhortant de nouveau à une libération rapide des otages enlevés le 7 octobre, ainsi qu'à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.
Voilà un extrait de cette prière ce matin du pape François, un esprit saint dans un corps qu'il est un peu moins désormais. Marie Boueton du journal La Croix, toutes ces interventions désormais, tous ces déplacements vont être regardés, le sont déjà avec ses incertitudes, ses questionnements sur sa santé.
Il était déjà, en effet, la dernière fois qu'il a fait un déplacement, c'était Marseille. Il avait dû annuler en novembre son déplacement à la COP28. Et puis c'est vrai qu'au début du mois, il a fait lire l'un de ses discours. Et puis, vendredi soir, il n'était pas donc là pour le chemin de croix avec cette image très, très symbolique.
C'était déjà le cas l'an dernier.
Ce qui était le cas l'an dernier, mais il l'avait annoncé l'an dernier.
Il l'avait annoncé plus tôt, effectivement. Bon.
Là, en effet, il était censé venir et puis il y avait ce fauteuil resté vide qui a vite été retiré. Mais donc, en effet, ça a alimenté évidemment les spéculations sur sa santé. C'est un homme qui a 87 ans, qui a forcément, comme tout homme de cet âge, des forces physiques qui déclinent. Il a des facultés intellectuelles qui, en revanche, elles, restent tout à fait alertes. On le voit bien, il écrit ses homélies. Le week-end pascal, par ailleurs, est un week-end qui est extrêmement chargé. Donc, c'était sans doute plus inspiré par une forme de principe de précaution, de dire si on veut qu'il fasse la veillée pascal, c'était hier soir, c'était du 2h30 de célébration. La bénédiction obiter bis midi, il fallait aussi le préserver.
Vous parlez de sa santé mentale, c'est d'ailleurs un petit peu ce que lui-même dit. C'est le jour où celle-ci déclinera, là peut-être.
Il a, on le voit dans sa biographie publiée très récemment, une sorte de, pour le coup, il fait une forme de en même temps. Il dit j'envisage quelque part ma charge comme à vie. A priori, j'entends rester pape jusqu'au bout. Et puis, il fait aussi preuve, dans le même temps, de pragmatisme, en disant, mais si je sens que mes facultés déclinent, alors je n'exclus pas une forme de renonciation.
Émilie Zapalski, est-ce que pour vous, justement, cette renonciation du pape se pose? On imagine, par exemple, qu'il ne pourra pas effectuer les voyages qu'il a prévus cette année. Il doit notamment, dans les prochains mois, partir en Asie du Sud-Est. Ça semble compliqué.
Bah oui, c'est toujours des moments un peu compliqués quand ça se passe comme ça. Moi, je me souviens que j'avais vu Jean-Paul II à la place Saint-Pierre, qui était dans un état un peu vacillant, et on se posait toutes ces questions. Et c'est vrai que c'est comme une... Voilà, on
qui n'avait jamais envisagé, en tout cas publiquement, de quitter ses fonctions.
Voilà, c'est ça. Donc il y a cette espèce d'idée qui resterait éternellement. Et puis évidemment, c'est un homme, il est âgé, et donc il y a ça. Moi je me pose la question sur. Alors c'est pas l'idée de l'enterrer tout de suite, mais c'est de justement, vous avez parlé de santé mentale et un peu son implication, son engagement. Alors ce prêtre qu'on dit moderne, mais qui est quand même un peu conservateur hein, sur certains aspects, sur l'homosexualité, sur le célibat, des choses comme ça où on pensait que peut-être ça pouvait évoluer, mais finalement, bah, peut-être que l'Église n'est pas prête à ça. Mais voilà, c'est plus, moi, ça me re-questionne sur ça, sur la personnalité de ce pape, de voir un peu comment il marque les choses. Après, sa santé, voilà, ça paraît juste normal à 87 ans, c'est juste triste. Mais
Raphaël Kahn, est-ce qu'il faudrait élire un pape plus jeune la prochaine fois? Écoutez, question qui se pose, c'est sérieux.
Oui, plus jeune ou tout simplement, voilà, qui est la lucidité, effectivement, le moment venu, qu'avait eu Benoît XVI, on peut lui rendre hommage, parce qu'on avait beaucoup critiqué Benoît XVI pour son conservatisme, justement. Or, il a eu la modernité, la lucidité. Oui. Et sans doute, il a montré aussi ses qualités hein, de grand théologien, de comprendre qu'il était temps, effectivement, de passer la main.
Rachel ?
Ouais, ce qui va être intéressant, parce qu'effectivement, voilà, le pape a son âge, si je puis dire, fatalement, la question de la fin de son pontificat finira par se poser. Ce qui va être intéressant, c'est comment le Vatican va gérer ça, parce que ce qui s'est passé hier soir avec ce fameux fauteuil enlevé en catastrophe, c'est un échec communicationnel terrible pour le Vatican, parce que effectivement, ce côté précipité, contrairement à l'année dernière, ben c'est ça qui suscite d'autant plus les rumeurs sur peut-être une brusque dégradation de l'état de santé du pape. Je me souviens, Jean-Paul II, il est mort en 2005, si je me trompe pas. Mmh. Pendant de longues années, la chronique autour du pape, c'était quand même quel est l'état de santé du pape. Aujourd'hui, les médias sont encore plus importants. Enfin, on a complètement changé de paysage médiatique. Donc, est-ce que le Vatican va devoir subir pendant plusieurs années la question de la chronique médicale du pape? Ça sera intéressant de voir comment ils vont gérer ça.
Vous avez utilisé le mot communication. Je suis obligé de me tourner vers vous, Émilie Zapalski, communicante. Cette communication, justement, comment vous la jugez de la part du Vatican?
Bah oui, c'était probablement précipité et un peu maladroit de laisser cette chaise. Après, voilà, on est à l'heure où on voit tout.
Donc, c'est pour ça.
Voilà, encore une fois, je vous dis, Jean-Paul II, moi, je l'avais vu vacillant, en train de chanter. Donc, évidemment, on peut se poser des questions, mais ça faisait pas le tour de la planète en deux secondes. Forcément, là, c'est sous les feux du monde entier. Donc, il va falloir être vigilant. Mais bon, je pense que de toute façon, on peut comprendre que cet homme, voilà, soit fatigué physiquement.
C'est une institution qui tient plutôt les chocs,
oui,
le Vatican.
Effectivement, du Vatican, on va partir pour le Stade Vélodrome, tiens, le football et le fameux classique entre Marseille, autre institution, et le Paris Saint-Germain. Julien Froment, vous êtes en direct avec nous. Le match vient tout juste de débuter avec Kylian Mbappé. C'était quelque part un faux suspense qui a bien débuté la rencontre.
Effectivement, avec le brassard de capitaine, même Kylian Mbappé, qui est donc titulaire ce soir pour son dernier match ici au Stade Vélodrome face à des Marseillais amoindris avec pas moins de 5 joueurs cadres absents. Mais Marseille veut y croire. Marseille qui, on le rappelle, n'a plus gagné ici au Vélodrome face aux Parisiens depuis 2011. À noter une ambiance des grands soirs, bien évidemment, malgré le vent, malgré la pluie, le Stade Vélodrome espère battre un record d'affluence. On attend pas moins de 66 000 spectateurs. Et bien, je peux vous assurer que malgré ce temps déchaîné, le Stade Vélodrome a fait le plein. Toujours 0-0. Et les sifflets que vous entendez, bien, c'est parce que c'est des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont le ballon. 0-0, 1 minute 30 de jeu ici au Stade Vélodrome.
Encore un mot, Julien Froment, pour dire que ce match, bien sûr, est important pour le Paris Saint-Germain. Encore plus à 10 jours maintenant de son quart de finale de Ligue des Champions.
Oui, et avant sa demi-finale de Coupe de France aussi, mercredi, face au Stade Rennais, disons qu'il y a des étapes pour le Paris Saint-Germain dans sa quête de titre, puisque Paris est quasiment assuré de remporter la Ligue 1. Et le club de la capitale vise bien sûr aussi la Coupe nationale. Et puis cette Ligue des champions avec cette double confrontation face au FC Barcelone. Forcément, là, il y a déjà un avant-goût avec cette ambiance hostile face à des Marseillais, certes, qui sont très très loin au classement. 20 points d'écart, c'est par les deux formations. Mais en termes d'atmosphère et d'ambiance, c'est déjà un excellent test, on va dire, pour les joueurs de Luis Enrique.
Merci beaucoup Julien Froment. Ce match OM-PSG, ce classique à suivre bien sûr ce soir sur France Info, la radio, dans le Club Info, ce sera tout à l'heure avec Laurie Delostal et Julien Langlais. On va marquer une nouvelle pause, 21h49, le fil info avec Thomas Giraudot.
4 personnes ont été tuées, 17 blessées à Gaza. Une frappe israélienne a touché un hôpital au centre de l'enclave palestinienne, affirme l'Organisation mondiale de la santé. Une équipe de l'OMS est en mission humanitaire sur place. Depuis des semaines, l'armée israélienne mène des opérations dans et autour des hôpitaux de Gaza et affirme y éliminer des combattants du Hamas. Une facture plus élevée en pharmacie à partir d'aujourd'hui. La franchise médicale est doublée. Votre reste à charge passe de 50 centimes à 1 euro par boîte de médicaments. Même changement pour les actes paramédicaux. Une centaine de gendarmes et des brigades cynophiles sont déployées près du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, là où des ossements du petit Émile ont été découverts. Le petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis l'été dernier. Les parents se sont exprimés via leur avocat. Ils déclarent que l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Et puis le classique au Vélodrome, OM-PSG, 2 minutes de jeu, pour l'instant 0-0. Et en top 14 de rugby, Bayonne reçoit Toulon ce soir, match délocalisé à Anoeta, le stade de San Sébastien dans le Pays Basque espagnol.
France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Nous parlions de Pâques. Pâques, c'est aussi bien sûr la chasse aux œufs en chocolat, du chocolat de plus en plus cher, dont le prix de la tonne sur les marchés dépasse, tenez-vous bien aujourd'hui, celui du cuivre, sans compter que le chocolat présente une empreinte écologique assez désastreuse. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un sujet, Marie Boueton, dont on parle de plus en plus fréquemment depuis quelques années.
On en parle de plus en plus et c'est vrai qu'on a longtemps été focalisé sur l'huile de palme. Et en laissant le cacao de côté, c'est vrai que son empreinte écologique est considérable, notamment en matière de déforestation. Juste deux chiffres, le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent 60% du cacao mondial et la Côte d'Ivoire a perdu 80% de sa forêt en 60 ans. En fait, très concrètement, le cacao est très consommateur d'eau, très consommateur de pesticides et d'espace aussi. Donc on exploite à fond une parcelle et ensuite on en cherche d'autres. Et donc, en effet, il faut vraiment qu'on se questionne sur l'omniprésence du chocolat. On le voit bien en tant que consommateur lambda. Il envahit les desserts, les yaourts, les gâteaux, les crèmes glacées. Bon. Et on a, ça n'est plus du tout un moment festif que de consommer du chocolat. Et là, sans doute qu'il va falloir qu'on s'interroge sur notre consommation et avoir sans doute un rapport plus frugal, vu son empreinte écologique.
Oui, parce qu'Émilie Zapalski, on fait le constat, on se pose des questions, sans doute les bonnes, mais est-ce que les choses s'améliorent, elles, concrètement, derrière?
Non, c'est difficile.
On
mais
toujours autant de chocolat. Ouais, je crois que c'est 7 kilos par Français par année.
C'est un plaisir aussi. Mais au-delà de ça, comme on est à Pâques, là, c'est aussi... j'ai l'impression que tout ça, ça re-questionne toujours nos traditions, en fait. On a l'impression que de mesurer l'empreinte carbone, de se poser ces questions-là sur l'écologie, bah, ça re-questionne nos traditions en se disant, est-ce qu'on va pouvoir les garder? Je pense à Noël aussi, les repas monumentaux. Il y a plein de gens qui font différemment, bah, ne serait-ce que le sapin de Noël. On voit que voilà, ça va beaucoup plus loin que des actes de innovation, des actes écologiques, ça va aussi dans nos traditions. Et moi, je pense qu'on va être amené comme ça à se poser des questions au fur et à mesure. Derrière ça...
Et à changer nos comportements.
Bah, à changer nos comportements. Je crois que les jeunes, ils sont prêts. Hein. Les générations qui arrivent, ils se posent même pas la question. Ils s'habillent plus avec des vêtements neufs, ils s'habillent avec des vêtements recyclés. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu dans cet esprit-là. Donc oui, ça va nous amener à changer. Mais aussi, dans cet exemple du cacao et du chocolat, je trouve que ça met en avant tous les problème qu'on a d'ailleurs au niveau des producteurs agricoles, hein, ne serait-ce que chez nous, de toute la filière, comment est pris l'argent au fur et à mesure les intermédiaires, comment on assure la rémunération aux producteurs. En fait, on est toujours, et l'agroforesterie évidemment, on est toujours face, on ne sait pas faire en fait. On n'a pas réussi à résoudre ce problème pour que les gens qui produisent soient rémunérés et que ça ne soit pas dans la chaîne Egalim, c'est ça, la loi Egalim 1, 2, bah, en fait, elle a du mal, on a beau passer les différents numéros de loi, on a du mal à régler cette question-là.
Raphaël Kahn, cela interroge aussi notre façon de consommer de façon générale, notre empreinte.
Oui, vous parliez de traditions, en fait, ce ne sont pas des traditions très ancrées, parce qu'en réalité, qu'il s'agisse de Noël ou du chocolat à Pâques, enfin des cadeaux à Noël ou des chocolats à Pâques, on peut dire que l'industrie agroalimentaire a en grande partie contribué à modifier et à nous, d'une certaine manière, modifier même notre perception des traditions, de jusqu'à croire effectivement que le chocolat doit être omniprésent à Pâques, mais il l'est en fait, comme vous l'avez dit, le reste de l'année, ce qui questionne nos habitudes alimentaires avant tout, et de la même manière, Noël, qui est devenu la fête de la surconsommation, jusqu'à maintenant le Black Friday, qui s'invite un mois avant pour déjà nous faire surconsommer. Et donc on voit bien qu'il y a une vraie offensive, en fait, des industriels pour modifier, en réalité, ce que nous percevons nous-mêmes de nos traditions.
Mais on est vraiment Raphaël Kahn, je reste avec vous, sur cet entre-deux, on va dire, on se rend compte qu'il y a un problème.
Ah oui, on en est conscient.
Mais que les actions ne sont pas là pour l'instant.
Mais non, et d'autant moins qu'en fait, aujourd'hui, les vecteurs pour consommer se multiplient, parce qu'il y a une démultiplication à la fois via les plateformes d'achat, mais également, et on le voit maintenant avec des enseignes venant de Chine que je ne citerai pas, où effectivement, le fast fashion a pris, je dirais même pas à bas prix, c'est des prix même ridicules aujourd'hui, à tel point qu'on peut s'interroger sur la fabrication. On parlait du cacao, et ce qui pose aussi, au-delà du problème de la déforestation, le problème du travail des enfants, puisque les fabricants suisses s'engagent à mettre fin au travail des enfants à horizon 2025. C'est-à-dire qu'ils en ont conscience aujourd'hui, mais ça ne les empêche pas d'en vendre. Et effectivement, de la même manière, on peut s'interroger sur ces marques venues, ces plateformes chinoises qui nous proposent à des prix défiant toute concurrence toutes sortes de vêtements à usage unique, quasiment.
Rachel Garabal-Carcel, il y a effectivement des marques qui proposent des chocolats, on va dire, éthiques, avec des filières durables où les cultivateurs sont bien respectés, le travail des enfants, il n'y en a pas, etc. Mais ce n'est pas du tout la majorité aujourd'hui.
Mais c'est surtout pas le même prix, du coup, parce que si la fast fashion, par exemple, pour prendre un autre sujet, fonctionne si bien, c'est parce que c'est à bas prix et que, malgré tout, depuis des années, bah, les salaires d'une bonne partie de la population, ils ont pas suivi la hausse des prix, pas seulement de ces dernières années, d'ailleurs. Donc forcément, bon, on est obligé de se rabattre sur des choses de moindre qualité si on veut réussir à quand même consommer, parce que aujourd'hui consommer, c'est quand même un marqueur social très important, quoi. Si vous pouvez pas consommer, si vous pouvez pas avoir comme les autres, si je puis dire, ceux qui ont les moyens de consommer, ben vous êtes quand même un peu largué dans la compétition sociale, dans la société, si je puis dire. Donc, bah, effectivement, du coup, on adhère à des traditions qu'en fait, qui sont pas si traditionnelles que ça. Il faut quand même son chocolat à Pâques, quoi. Mais effectivement, c'est super difficile. Mais regardez les difficultés qu'il y a, ne serait-ce que dire que bah, le barbecue, c'est compliqué parce que, ou manger de la viande, c'est compliqué parce que ça consomme une eau considérable. Bon, au fond, les gens qui sont prêts à faire le sacrifice de ça, ils restent quand même très, très peu nombreux dans notre société.
Cela vaut pour tous les comportements, finalement, Marie Boitin.
Oui, mais moi, ce que je trouve...
Une grande partie de nos comportements.
Certes, ce que je trouve intéressant, et je le dis d'autant plus que les élections européennes arrivent bientôt, un règlement a été adopté au niveau européen qui va entrer en vigueur en décembre prochain, qui interdira l'importation de produits qui sont issus de la déforestation. Et ce sera donc le cas du cacao, notamment, du café, etc. Donc, va devoir se mettre en place, et là encore, ce sera assez compliqué, la question de la traçabilité. Les grandes entreprises vont s'y mettre, les petits producteurs, ça va être plus compliqué, mais ça va plutôt dans le bon sens. Je le dis parce qu'on ne doit pas être les seuls, en tant que consommateurs, à devoir bouger. Il faut aussi qu'il y ait une réglementation qui nous y incite.
Émilie Zapalski.
Moi, je trouve que c'est vrai que la tâche, elle est énorme, en fait. Ça donne le vertige quand on voit tout ce qu'on va devoir faire pour assurer tout ça. Mais je trouve que c'est quand même intéressant, même s'il y a peu de choses encore qui sont réalisées, qu'on se pose la question, tout simplement. Qu'on se pose la question de notre consommation, qu'on se pose la question des vêtements qu'on achète, de leur origine. Moi, je trouve que c'est bien. C'est vrai que moi, je suis issue d'une génération où, voilà, c'était la consommation à tout prix. La voiture, ça change hein, quand même, même si on a un président qui dit qu'on adore la bagnole, on change quand même notre façon de voir, selon les endroits où on habite, évidemment. Mais je trouve que c'est déjà bien qu'on se pose la question. C'est pas fini. La bataille, elle va être lourde. Il va falloir trouver de l'argent aussi. Donc, le gouvernement va devoir encore se creuser les méninges. Mais on se pose déjà des questions et c'est pas mal de vouloir changer les choses.
Vous parliez de la voiture. On peut parler de l'avion aussi, par exemple. Je ne sais pas, Rachel Garabal-Carcel. C'est aussi un peu le même problème que le chocolat, en quelque sorte. Ou voilà, on se dit, bon, bah, y a un problème écologique.
Oui, même si pour le coup, pour l'avion, il faut se regarder en face aussi, ça concerne très très peu de gens.
contrairement à l'achat de chocolat, si je puis dire, qui est un peu plus démocratique. Non, mais là, tout ce qu'on dit, ça pose aussi la question, est-ce qu'on a des gouvernants, ceux actuels ou les futurs, évidemment, qui sont prêts aussi à sciemment réduire le moteur de la consommation, qui est quand même primordial, notamment en France, pour la croissance. Ça c'est aussi très difficile.
Et ben, le message, je l'aurais envoyé ce soir grâce à vous. Merci, Rachel Guérin-Valcarcel, d'être venue dans Les Informés. Raphaël Kahn, également, Émilie Zapalski et vous. Marie Boueton, tiens, à la une de la Croix, l'hebdo, cette semaine.
Oui, c'est l'appel, et ça concerne en l'occurrence les personnes qui demandent à être baptisées à l'âge adulte et qui sont en considérable augmentation.
Merci à tous les quatre d'être venus. Les Informés reviennent demain. Très bonne soirée sur France Info.